France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
L'histoire de la médecine a emprunté de nombreux chemins dont certains ont parfois été oubliés. Parmi ceux-là, il en est un qui, au Moyen-Âge, associa l'astrologie et la médecine. Quels étaient les principes de cette astrologie médicale associant les parties du corps humain aux astres et quel développement a-t-elle connu en plein essor de la première professionnalisation de la médecine? Pour répondre à ces questions, Science Chrono parcourt aujourd'hui les pages d'un petit traité médiéval signé de la main d'un médecin astrologue bien énigmatique, Guillaume Langlais. Bonjour Laurence Moulinier-Brogy.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université de Paris-Nanterre et autrice du livre Guillaume Langlais, le frondeur de l'uroscopie médiévale, 13e siècle, paru en 2011 aux éditions Dro. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous décrire un aspect méconnu de l'histoire de la médecine au Moyen-Âge, l'importance qu'on pouvait accorder à l'astrologie dans le travail du diagnostic et dans l'attribution des traitements. Alors avant de nous plonger dans ce sujet, je vous annonce le thème de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous nous plongerons dans un mythe fondateur, celui du déluge, et on verra que dès les premiers âges de l'écriture, et bien avant la Bible, ce déluge était présent dans les textes mésopotamiens comme l'épopée de Gilgamesh ou le mythe d'Atrahasis. Ce sera donc en deuxième partie. Mais avant cela, on revient à notre astrologie médicale au Moyen-Âge, avant de décrire en détail les liens qui se tissent à cette époque entre l'astrologie et la pratique de la médecine. J'aimerais, Laurence Moulinier-Brogy, qu'on décrive ces deux pratiques séparément dans un premier temps et qu'on les situe. Alors, qui pratique majoritairement la médecine au Moyen-Âge au 10e, 11e siècle ?
Alors, merci pour cette question. Dans la période que vous pointez, qu'on va qualifier de haut Moyen-Âge, domine encore ce que nos collègues allemands ont baptisé Kloster Medizin, la médecine du cloître. Sous-entendu, la médecine est très largement possédée, connue, cultivée et pratiquée par des moines, voire des moniales ou des abbesses, au sens où ce sont eux qui ont recueilli des textes, copié ces textes, étudié et compris ces textes. Faut pas pour autant oublier tout de même qu'il y a quelques empiriques, des gens sans aucune formation théorique, qui pratiquent, mais dont les noms nous échappent très largement. En gros, on ne les connaît que quand ils sont condamnés ou inquiétés.
Puisque vous parlez de textes, sur quelle base justement de connaissances basaient ces moines et ces moniales pour pratiquer la médecine dans le cloître ?
Alors, un certain nombre de textes de l'Antiquité avaient survécu à la grande débandade de la fin de l'Empire romain d'Occident, mais souvent sous la forme de bribes, de traités pseudépigraphiques, notamment de lettres. Il y avait beaucoup de dépistolés, mis sous le nom d'Hippocrate, mis sous le nom de Galien, qui étaient donc non authentiques, mais sur lesquels on se fondait pour, administrer la saignée, par exemple, ou des calendriers diététiques. Quelques auteurs aussi, Vindicianus, par exemple, avaient une certaine postérité, mais de la médecine grecque de son âge d'or, bien peu de choses étaient connus. C'est plutôt des excerptas, des extraits, des florilèges que l'on possédait.
Quand on pense médecine et religieux ou religieuse, on pense par exemple à la religieuse allemande Hildegard von Bingen. Alors je crois que vous avez participé à la grande traversée sur France Culture qui était dédiée à Hildegard von Bingen, réalisée par Aurélie Sfez et Benjamin Hu. Voilà, c'était sur quelle base ? C'était vraiment une base de charité chrétienne qui était pratiquée cette médecine. On est d'accord qu'il n'y avait aucune rétribution à ce moment-là.
Oui, c'est une médecine gratuite, un argyre, qui s'exerce quand même beaucoup à l'intérieur du cloître, pour commencer. Il y a un infirmarius, ce qu'on appellerait infirmier, même si c'est pas très correct, ou une infirmaria dans certains cas. Et donc, on tente de soulager les maux du corps des moines. La règle de Saint-Benoît, que la plupart des moines à l'époque suivent, est assez modérée, attentive au corps, aux maux du corps, et prescrit voilà, des régimes pour les malades, etc. Et par à coup, enfin d'une manière non prévisible, effectivement, ces moines ou ces moniales pouvaient soigner des gens qui frappaient à leur porte en quête de soins.
On parlait tout à l'heure du 10e, du 11e siècle, mais à partir du 11e, 12e, 13e siècle, il y a quand même des changements majeurs qui s'opèrent dans le monde de la médecine. Est-ce que vous pourriez nous aider, Laurence Moulinier-Brogy, à nous situer justement ces changements-là, en quoi ils consistent ?
Alors, puisque vous m'avez offert sur un plateau le nom de Hildegard de Bingen, que je connais un petit peu, on peut dire que ces traités de médecine, c'est un peu le champ du cygne de la médecine monastique, justement un des derniers grands textes composés en milieu monastique. Parce qu'il se passe à cette époque, à partir de la fin du XIe siècle, c'est la redécouverte de textes jusque-là complètement ignorés, grâce à des traductions, qu'on appelle ensuite les grandes traductions, tant le mouvement est massif. Ce mouvement est initié donc à la toute fin du XIe par un moine qui s'appelle Constantin l'Africain, ainsi nommé parce qu'il vient de Tunisie, tout simplement, qu'il s'installe au Mont Cassin, et que là, il entreprend de faire passer d'arabe en latin beaucoup d'œuvres qui, par la suite, vont redynamiser, étoffer, irriguer une science médicale un peu éthique pour l'époque à l'Occident. Je peux permettre de dire éthique parce que ce sont les latins eux-mêmes qui se plaignent de la pénurie de textes. Hein. Ceux qui entreprennent le voyage à Tolède, par exemple, pour aller s'abreuver à des sources du savoir, disent « on manque de textes, nous les latins, il faut aller aux sources ».
Et on avait consacré un épisode de Science Chrono justement à l'importance de ce relais, de ces commentaires, de ces traductions réalisées par les savants arabes tout au long du Moyen-Âge et qui vont permettre justement la redécouverte de ces textes antiques médicaux en partie. Il faut parler aussi d'un autre phénomène, Laurence Molinier-Brogi, c'est l'ouverture des universités qui là aussi va planter le clou dans le cercueil des moines médecins, on va dire.
Oui, c'est vrai, c'est les deux mouvements qui confluent. Un apport massif de textes avec des notions fort différentes, pas toujours adaptées au système de pensée chrétien, dirons-nous. Et puis cette masse de connaissances nouvelles qui va trouver assez naturellement sa place dans ces nouveaux enseignements de savoir, institutions de savoir qui voient le jour à la toute fin du XIIe et assurément début du XIIIe siècle, qu'on appellera les universités. Des universités désormais divisées en facultés. La médecine devient une faculté supérieure, au même titre que le droit ou la théologie, et ça va donner naissance à la toute nouvelle figure du médecin diplômé, issu d'université, fort d'un savoir livresque, qui n'a plus rien à voir avec la médecine qu'on pouvait cultiver dans les cloîtres.
Les moines n'avaient pas accès à l'université, sauf rares dérogations. Ils étaient interdits, je crois, par deux conciles, le concile de Clermont en 1130 et celui de Reims en 1131, d'études, justement, de cette médecine. Donc là, on voit bien les embranchements, enfin, les chemins qui se séparent entre la pratique médicale réservée aux moines et une professionnalisation, finalement, de la médecine. Médecine qui va devenir finalement une pratique contre une certaine rémunération. Voilà, on oublie l'idée d'une médecine charitable. Il faut quand même parler aussi d'un changement majeur qui s'opère dans le monde de la religion, de l'Église. C'est l'apparition des ordres mendiants que vous connaissez bien parce que c'est ces ordres mendiants qui vous ont conduit justement à l'étude de cette astrologie médicale. Quels sont ces ordres mendiants et quel rôle ils vont jouer justement dans cette histoire de l'astrologie médicale redécouverte, on va dire.
Alors, je vais essayer de redéplier votre question qui est un beau feuilleté en plus. Effectivement, vu que ces textes nouveaux peuvent contenir des connaissances que l'Église peut juger sulfureuses ou mal accommodables avec la pensée chrétienne, vu aussi que des études de médecine ou de droit débouchent tout naturellement sur des professions désormais rétribuées, il y a des conciles qui vont succéder pour interdire effectivement aux moines, sauf dispense comme vous l'avez dit, d'aller étudier ces disciplines lucratives. Et du coup, on parle volontiers d'un repli ou d'un recentrement de la médecine monastique qui serait devenue vraiment essentiellement interne. Voilà, ça c'est une idée qui a dominé longtemps. Et effectivement, ce qui se passe en même temps de tout à fait neuf, c'est l'apparition d'ordres religieux nouveaux, au sens où ce ne sont plus des moines enfermés derrière les murs de leur monastère, mais des frères qui vont de couvent en couvent, qui ont une liberté de mouvement absolue, et dont la mission très rapidement s'affirme comme intellectuelle. Hein. Les franciscains naissent avec un autre objectif, la pauvreté, mais finalement eux aussi vont tourner à l'ordre intellectuel. Et ces mendiants, théoriquement aussi, devrait être interdit de médecine, une succession de chapitres généraux le dit. En fait, on se rend compte, à bien fouiller, à étudier les manuscrits ou les catalogues de bibliothèques qui nous sont parvenus, ben, c'est pas si clair. Il y a un intérêt net pour la médecine, voire pour une branche de la médecine un petit peu olé-olé, un peu plus discutable, comme l'astrologie médicale.
Alors, l'astrologie médicale, on définira bien sûr ce qui a rassemblé ces deux approches. Parlons d'astrologie, puisque l'astrologie, pour nous, c'est les horoscopes, c'est quelque chose de très très éloigné de la science. Aujourd'hui, à cette époque-là, ça ne l'était pas du tout. Alors, quels étaient les liens qui unissaient astrologie et science, et quelle science en particulier ?
Alors, l'astrologie, l'astronomie, dans les textes latins, déjà, ça se distingue assez mal. Astrologie et astronomia sont souvent employés l'un pour l'autre. C'est la science des astres, voilà. C'est pas l'horoscope à 2 euros qui nous dit « il va pleuvoir, reste chez toi » ou quelque chose comme ça. Non, je blague. C'est une science éminente, puisqu'elle permet d'étudier le ciel, d'observer ses évolutions, de calculer des conjonctions, des révolutions. Donc, il y a une dimension prédictive qui est évidemment éminemment intéressante. Et c'est une science largement fondée sur l'art du calcul. Donc, à ce titre, l'astronomia va être enseignée à la faculté des arts dans le groupe de sciences qu'on regroupe sous le nom de quadrivium, hein, les quatre sciences sous-entendues du nombre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui, vous avez absolument répondu
à ma
question.
Mais donc, c'est une science, et je répète, la distinction entre l'astrologie à bas prix de nos jours et l'astronomie n'est pas du tout de mise.
Pas du tout la même à cette époque. Alors, qu'est-ce qui va réunir astrologie, astronomie, on va dire, et médecine? Est-ce que dans les textes antiques ou bien les textes des savants arabes, on va déjà trouver en germe cette association? Qu'est-ce qui fait cette association entre astrologie et médecine?
Alors, l'idée que les corps célestes ont peut-être une influence sur les corps terrestres est vieille comme le monde. Je me garderai bien de la dater, hein, mais on a un petit soupçon qu'il y a peut-être une influence du monde d'en haut sur la sphère sublunaire. Pour en venir aux médecins purs, même la collection hippocratique, par exemple, au 5e siècle, n'est pas complètement dénuée de cette notion d'astrologie, même si c'est encore à petite dose. Et par exemple, pour administrer dans les meilleures conditions un traitement, pour administrer une saignée, on va tenir compte quand même des conjonctions, de l'état du ciel, etc. Et puis, bien sûr, c'est quelque chose qui va aller ensuite crescendo. Mais ce que je veux dire, c'est que les origines sont vraiment très lointaines. Mmh. On estimait aussi, on suivait plutôt une doctrine ou un savoir qui s'appelait la mélothésie zodiacale. Alors, le mot a l'air compliqué. En fait, le principe est simple. On estimait qu'on pouvait plaquer la voûte céleste sur le corps humain et du coup, établir des associations entre des parties du corps humain et des signes du zodiaque. La tête et le bélier, les pieds et le poisson. Ça, c'est pareil, c'est très très vieux. Selon les auteurs, on dit que ça naît chez les Chaldéens, chez les Égyptiens, peu importe.
Il y a pas mal d'attributions, de citations apocryphes à Hippocrate, à un pseudo-Ptolémée également. Donc tout ça finalement est dans l'air. Ça se traduit comment dans la pratique médicale, avant qu'on en vienne justement à notre cher Guillaume Langlais?
Alors disons que le médecin de base n'ignore pas complètement un petit peu de science des astres. Encore une fois, pour ces histoires d'administration de clistères ou de saignées, on tient compte quand même de l'état du ciel. Mais les choses ont évolué, là encore avec la redécouverte de textes, tout simplement, l'afflux massif d'un savoir nouveau, stimulant et extrêmement dynamisant, qui va en amener certains à vouloir intégrer de plus en plus l'astrologie à leur pratique médicale, voire, pour mon héros ou notre héros du jour, à vouloir proclamer que l'astrologie est supérieure à la médecine.
Alors, Guillaume Langlais, on y vient à notre personnage énigmatique et héros du jour. À quelle époque il vivait? Qu'est-ce qu'on sait de lui?
Ça a été longtemps un être de parchemin absolu. Mais on en sait un petit peu plus maintenant à force de farfouiller. C'est donc un personnage qui a le mérite de se présenter. Dans le prologue de son œuvre bizarroïde qu'on va commenter, il dit « Je suis anglais de naissance, citoyen de Marseille, médecin de profession et astronome », donc on sent ce qu'on a donné. Hein. Alors on a pu maintenant avec certitude établir ce qu'on appelle son florwit, c'est-à-dire son activité entre 1219 et 1232. Notre homme dit également qu'il a laissé d'autres écrits et à force de tâtonnements patients et de recoupements, on arrive à lui attribuer effectivement un ou deux autres écrits, une traduction d'une partie des Kiranides, donc une traduction de l'arabe, il aurait possédé l'arabe, un commentaire au quatrième livre des météores d'Aristote, et enfin un traité qui est passé un peu inaperçu mais qui a toute son importance, le premier traité d'Occident sur la Saféa. La Saféa, c'est le nom arabe d'une sorte d'astrolabe. Donc évidemment, son amour pour la science des astres est patent dans toutes ces compositions-là.
On parle d'un Anglais à Marseille. Marseille, il faut le placer aussi sur cette carte du Moyen-Âge. Quelle est l'importance de ce carrefour-là, méditerranéen, pour les savoirs médicaux en partie?
Alors, Marseille, effectivement, c'est pas n'importe où. Et c'est pas non plus le premier Anglais à Marseille. C'est pas que pour le soleil, visiblement, qu'il y a un tropisme. C'est une ville extrêmement bien située au point de vue de la circulation des hommes, des textes et des idées. C'est pas loin non plus de Montpellier, autre grand pôle, bien sûr, très actif en matière de développement d'histoire des sciences et histoire de la médecine. Et puis, dès le XIIe siècle, à Marseille, un certain Raymond, donc on va appeler Raymond de Marseille, fait le premier, une espèce de défense illustration de l'astrologie, hein, en composant ses propres tables et un livre sur le cours des planètes. Cette œuvre, qui pour nous est maintenant presque inconnue, enfin quoique elle a été rééditée, ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd comme d'un autre Anglais qui s'appelle Roger de Hereford, qui se rend lui aussi à Marseille pour approfondir ses réflexions sur l'astrologie judiciaire. Donc c'est pas exclu, si vous voulez, que Guillaume Langlais, encore un Anglais, encore Marseille, ait connu l'œuvre de ses prédécesseurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un lieu extrêmement stimulant, d'abord par sa position de carrefour. Et peut-être, seconde raison, le fait qu'il n'y ait pas d'université à Marseille, pas de faculté de médecine capable de contrôler, régenter et vouloir un monopole, a peut-être favorisé le frémissement d'études sur lesquelles on est très mal renseigné. Guillaume Langlais, dans son prologue, dit qu'il a écrit son petit livre à la demande d'amis ayant étudié avec lui. On ne sait pas quoi, comment, où. On n'a pas beaucoup d'informations, malheureusement, sur les cadres de l'étude.
Alors Guillaume Langlais a écrit un texte intitulé « De l'urine non vue » et pour notre archive du jour, on s'est dit qu'on pourrait vous faire écouter la lecture d'un passage de ce texte. Il s'agit d'un extrait du chapitre 9 intitulé « De l'issue de la maladie et de sa fin » et la lecture vous est faite par Laurent Blanpin.
Et pour que la teneur de l'ensemble soit évidente grâce à un exemple, l'ascendant était à 25 degrés poisson, Vénus à 28 degrés sagittaire, le soleil à 8 degrés capricorne, la lune à 26 degrés capricorne, Mercure à 2 degrés verseau, Mars à 28 degrés gémeaux, Saturne à 15 degrés scorpion, Jupiter à 26 degrés cancer et la part du foie à 30 degrés scorpion. Ainsi donc, dans ce cas, c'est Vénus qui était l'almuptase sur l'ascendant et Jupiter l'almuptase sur le lieu du foie. Je dis donc que dans une situation précédente de ce genre, le phlegme sanguin abondait. Et je dis qu'à cause de la sécheresse due à Mars corrompant l'almuptase, l'état présent était la maladie. Et je dis de la même manière que l'urine était moyennement épaisse en consistance, à cause de la commixtion de Mars avec l'ascendant, et à cause de la présence du lion dans le lieu du foie. Et puisque Mars est ici corrupteur, et regarde mieux le bélier que le scorpion, je dis que la chaleur et la sécheresse de la tête étaient la cause de la maladie. Et comme Mars domine la quatrième maison, qui signifie la poitrine et le poumon et tout ce qui lèse intérieurement la poitrine, je dis qu'il souffrait dans la région du poumon. Et comme c'est le propre de Mars de signifier rupture des veines et effusion de sang, je dis que le patient crachait du sang. Je trouvais de rechef que Vénus entrait dans les rayons du soleil et était brûlée par le soleil. Aussi, je dis qu'il allait mourir sous 2 mois et 8 jours, et c'est ce qui arriva. Et je l'avais en cure avec d'autres, et il était hémoptysique et phtisique.
Voilà un extrait de ce texte de Guillaume Langlais de l'urine non vue. Laurence Moulinier-Brody, c'est vous qui nous avez suggéré ce passage. Alors pourquoi avoir choisi ce passage? Comment est-il emblématique finalement de ce traité dans son ensemble?
Alors, pour les auditeurs qui ont peut-être décroché, j'ai choisi ce texte, je ne l'avais jamais entendu lu. Pourquoi? Parce que c'est la conclusion, le dernier chapitre, donc des 9 chapitres de ce petit ouvrage bizarroïde au titre si intrigant, donc au sujet de l'urine qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas regardé. Alors là, il va falloir développer un faisceau d'explications pour que tout le monde se réconcilie avec moi. C'est un récit de cas médical, ou un jeu, prend la parole, hein, le praticien, en l'occurrence Guillaume Langlais, qui nous rappelle sa théorie, qui nous rappelle les calculs par lesquels il a procédé pour arriver à un résultat, un diagnostic et un pronostic, et qui finit par conclure qu'il avait raison, hein. Il a trouvé que son malade avait tel et tel mal, qu'il lui restait 2 mois et 8 jours à vivre, et c'est avéré. Donc c'est une conclusion lestée d'une certaine autorité à la pratique de Guillaume Langlais, qui nous montre que voilà, son petit traité n'est pas qu'élucubration, et qu'il a appliqué. C'est un exemplum, si vous voulez, quelque chose d'édifiant. Et de fait, ce court récit est systématiquement repris par tous les auteurs, ou presque, hein, qui ont recopié Guillaume Langlais, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Et il a été volontiers également mis en diagramme. C'est-à-dire que le petit carré astrologique, synthétisant toutes les données absconses qu'on vient d'énumérer, a circulé beaucoup de manière synoptique pour tous les lecteurs avides de connaître cette nouvelle technique. Alors, je m'égare un peu, mais de l'urine non vue, pourquoi ?
Pourquoi ce titre déjà est en forme en soi une forme de provocation pour
Alors pourquoi c'est une provocation? C'est peut-être moi qui l'ai dit, mais enfin je pense que tout le monde est d'accord. À l'époque où nous situons, donc on est en 1219-1220, la médecine qui fleurit en Occident se base très largement en matière de sémiologie sur l'examen des urines. Hein, c'est-à-dire le liquide qui sort du corps est censé donner des informations sur ce qui se passe à l'intérieur du corps, puisque, rappelons-le, au XIIIe siècle, on en a guère les moyens. C'est une branche de la médecine qui vient du monde byzantin. Un certain Théophile a composé un traité sur les urines, qui a été lui-même traduit au XIe siècle, et qui a eu un succès fou, au point qu'il a fait partie des 5 textes canoniques qui formaient le socle des études médicales. Ça veut dire que le De urinis de Théophile est commenté à l'envi, suscite à son tour des émules sous la forme d'autres traités des urines, etc., etc. Guillaume Langlais, par exemple, est strictement contemporain de Gilles de Corbeil, médecin de Philippe Auguste, qui lui est célèbre pour avoir écrit un poème sur les urines. Tant le savoir sur les urines est connu, célèbre et jugé nécessaire. Alors, on dirait que Guillaume Langlais veut s'insurger contre cette manière de faire en disant « on peut peut-être se passer de l'examen d'urine. Et qu'est-ce qu'il propose ? Eh bien, il propose bien sûr d'intégrer dans le diagramme et le calcul astrologique qu'il propose un représentant du foie. Alors pourquoi le foie ? Parce qu'à l'époque, on considère qu'il s'opère dans le corps des digestions, trois digestions, pensez un peu comme des cuissons, si vous voulez. La deuxième de ces digestions s'opère dans le foie. C'est elle qui produit les fameuses urines, dont ensuite la lecture permet au médecin de dire de quel mal on souffre et éventuellement quelle sera l'issue de la maladie. Donc lui, ce petit malin, introduit dans des notions traditionnelles, on va pas gloser trop ces termes un peu rébarbatifs, l'ascendant, le seigneur, etc. Ce sont des termes techniques que les astrologues et astronomes manient depuis fort longtemps. On peut juste gloser peut-être Al-Muptaz.
Bien sûr, parce que c'est un terme qui renvoie quand même à la langue arabe.
Voilà, enfin, on imagine... qui arrive directement en arabe, qui n'est guère traduit. Il est translittéré plus ou moins bien. On le trouve sous la forme Al-Mouten aussi. Mais ça en dit long sur, bien sûr, l'héritage arabe en matière d'astrologie. Et donc, Guillaume, dans ce système, encore une fois,
séculaire... L'Al-Muptaz, juste, je vous interromps, ça veut dire quoi ? C'est la planète qui est dominante,
c'est ça, non ? C'est la planète qui va assumer le rôle de planète dominante du thème de naissance.
Ah voilà, d'accord.
Alors, je pense que votre journée est éclairée.
Bien sûr.
Le week-end va être beaucoup plus léger. Donc, au milieu donc, de cet arsenal théorique, je dirais, hérité, hein, et Guillaume, en plus, a des lectures, il cite ses sources, donc on sait très bien où il pioche telle ou telle notion, il y en a une qu'il forge, et c'est celle de part du foie. Alors, la part, c'est également une notion assez traditionnelle dans l'astrologie arabe. La plus célèbre, c'est la part de fortune, popularisée par Ptolémée et ses sectateurs. Hein, c'est des points fictifs qu'on calcule d'après les longitudes de trois planètes. Et ici, Guillaume, donc, pour intégrer cette affaire d'urine dans son système de pensée, crée la notion de part du foie, qu'il insère donc dans le schéma, le calcul des degrés, comme vous l'avez entendu tous. Et donc, il n'a plus besoin, le médecin, de voir l'urine. À partir du moment où il a les données astrologiques de l'urine, eh bien, il peut en déduire son aspect, sa consistance, la maladie qu'elle décèle ou trahit et le pronostic.
En fait, Guillaume Langlais invente la téléconsultation, il se passe de la présence du patient, il n'a plus besoin de le voir, il sait déjà rien qu'en regardant la position
des astres. Alors, on pouvait déjà se passer de la présence du patient. À l'époque où nous citions, on a des consultations in absentia patientis, je fais mon bas bleu, mais c'est en latin souvent dans le texte, c'est-à-dire qu'un petit porteur apportait les fameuses urines et le médecin les commentait, ce qui ouvrait la porte à toutes sortes de situations parfois comiques parce qu'on pouvait vouloir tromper le médecin. Là, il veut dire qu'on n'a même plus besoin d'apporter le fameux flacon.
Hein? Donc ça veut dire qu'il y a une forme de supériorité de l'astrologie sur la médecine qui s'opère ?
C'est ce qu'il démontre dans les 8 précédents chapitres, ce qu'il proclame en tout cas, ce qu'il argumente en convoquant force devancier à l'appui. Et puis justement, pour l'illustrer, achever de convaincre les gens, être un peu dans le concret, il conclut sur ce fameux récit de cas qu'il s'attribue et qui va être par la suite perpétué.
Alors on a dit que ce Guillaume Langlais était quelqu'un de mystérieux, on ne sait pas grand-chose de sa biographie. Est-ce que c'était un cas isolé ou bien est-ce qu'il y avait une réelle vogue pour cette astrologie médicale à cette époque-là, au Moyen-Âge, au XIIIe siècle ?
Alors, il y a un intérêt très très net pour cette astrologie médicale qui n'est pas que son fait. Bon, lui, il se trouve qu'il pousse assez loin le bouchon, si je veux dire, la provocation ou l'envie de pourfendre des idées reçues et de faire une défense illustration vraiment de l'astrologie. À l'époque où nous y sommes, une fois de plus, l'astrologie elle-même a été traduite à nouveau frais. Des textes importants ont été connus des Occidentaux. Je pense aux traductions d'Adélard de Bas, par exemple, dès les années 1120, celle d'Hermann de Carinthie, dont Guillaume est également clairement l'héritier, puisqu'il le cite. Voilà, donc, il y a un regain d'intérêt pour cette astrologie, une prise de conscience de plus en plus nette que médecine et astrologie ont des choses à faire ensemble. Il y a un petit texte anonyme, un pseudépigraphe qui s'appelle l'astrologie d'Hippocrate. Bon, c'est bien sûr pas d'Hippocrate, hein, Astrologia Hippocratis, qui non seulement circule, mais est mis, je crois, si mes souvenirs sont bons, pas moins de 3 fois de suite en latin au XIIIe siècle, et qui a un début célèbre, il commence en comparant le médecin qui ignore l'astrologie à un aveugle qui voudrait marcher. Donc alors, on est dans un contexte de toute façon fertile pour cette pensée.
Et ce contexte-là, alors dans ce contexte-là, on a parlé du fait que l'Église finalement passait au second plan dans la pratique de la médecine. Quel regard porte l'Église sur cette incursion de l'astrologie dans la médecine ? Est-ce qu'elle s'en méfie ? Est-ce qu'elle le surveille ? Est-ce qu'elle se dit que c'est de la magie qui commence à tourner un peu au vinaigre ? Quel est son point de vue là-dessus ?
Alors justement, ça c'est une bonne question aussi, mais on ne peut pas répondre ni par oui ni par non. Les rapports entre Église et astrologie sont très fluctuants, il n'y a rien de linéaire. Et tour à tour, elle peut être tolérée dans une certaine mesure ou franchement pourfendue, comme entre autres le montre le cas de l'œuvre de Guillaume, mais pas seulement. Alors, j'explique en deux mots. Il y a une astrologie licite aux yeux de l'Église, c'est l'astrologie qui s'occupe de jugements collectifs, généraux. Justement, tout ce qui est calcul des révolutions, des conjonctions, c'est tout à fait admissible. En revanche, les jugements particuliers sont déjà un petit peu plus sulfureux, pardon. Dans les jugements particuliers, il y a trois catégories à l'époque. Les nativités, c'est-à-dire les horoscopes, mais en gros, ça concerne des grands personnages, donc une très faible poignée de gens. C'est souvent calculé à posteriori, ça gêne pas trop. Mmh. En revanche, il y a deux genres qui peuvent démanger parfois des amoureux d'orthodoxie. Ce qu'on appelle les interrogations et ce qu'on appelle les élections. Alors, les élections, c'est quoi? C'est recourir à l'astrologie pour décider du moment favorable à telle ou telle chose. Livrer une bataille, fonder une ville, etc. Et les interrogations, c'est exactement ce qui se passe dans le petit traité de l'urine non vue, c'est toutes les fois où un patient ou un client même vient voir un astrologue avec une question précise. Pas forcément médicale, hein. Mm-hmm. J'ai perdu ma clé, où est-ce qu'elle est, des choses comme ça. Et ça, pour l'Église, c'est, ça sent pas toujours très très bon parce que ça touche à la divination, donc ça touche à la magie. Mais le positionnement voilà, de l'Église par rapport à cette discipline n'est pas du tout un progrès, si vous voulez, qu'on pourrait suivre de manière linéaire. Il y a, selon les époques, selon les lieux, des durcissements, au contraire des tolérances.
Si on en revient à ce texte de Guillaume Langlais, quel succès connaît-il en France, en Europe? Est-ce qu'il est traduit? Est-ce qu'il circule? Pendant combien de temps?
Alors, il connaît un succès phénoménal, je m'en suis rendu compte à force de le reprendre et de remettre sur le métier l'ouvrage. Pour donner un ordre d'idée, dans les années 1930, Lynn Thorndike, le grand historien de la médecine, connaissait 22 manuscrits. Maintenant, j'en suis à 75 et je suis sûr qu'il y en a à peu près le double encore. C'est un tout petit texte, ce qui glisse facilement partout. On met pas forcément le nom de son auteur, certains l'ont repris sans le dire, etc. Donc, je parie vraiment qu'il y en a encore énormément à détecter. Il a donc une grande postérité, mais multidirectionnelle. Il est d'abord... très en faveur dans les universités, surtout les jeunes universités, celles de l'Est, par exemple, comme en Pologne, ou des universités où médecine et astrologie font l'objet d'une même faculté, comme Bologne. Il va être au programme, pardon, de ses études à Bologne. On le sait par un statut de 1405, il est probable qu'un siècle plus tôt, c'était déjà le cas. Il va également être traduit. Mmh. On connaît, ou on connaît la trace, parce que certains ont brûlé, deux traductions françaises au moins, une traduction en allemand, une traduction en flamand, et des traductions en anglais.
Quelle importance ça a, justement, ce fait que ce soit traduit dans des langues vernaculaires? Qu'est-ce que ça nous raconte?
Ça veut dire que c'est pas simplement le cercle des latinistes qui s'y intéressent, donc des universitaires ou des hommes d'église, pour le dire vite, mais des grands laïcs, hein, des lettrés curieux, qui se piquent de tous ces arts divinatoires dont le succès à la fin du Moyen-Âge est phénoménal. Je pense à la géomancie, à la chiromancie, voilà. Toutes ces manières de deviner qui leur plaisent. Donc, il y a ce public-là, si vous voulez, qui se laisse deviner. Et puis, une autre voie de sa survie étonnante, ça a été une compilation. Un certain Léopold d'Autriche, à la fin du XIIIe siècle, réalise une compilation qu'il appelle la compilation de la science des étoiles, dans laquelle il fait une synthèse de tout ce qu'il y avait de valable à ses yeux en son temps. Et cette compilation a un grand succès. Elle est elle-même traduite en français. Donc vous voyez, les voies pour y accéder ne manquaient pas. Et parfois, d'ailleurs, face à un repreneur, on est bien en peine de savoir quel est exactement le relais.
On peut parler aussi, peut-être pour conclure, de ce livre, le livre des passions astrologiques par Nicolas Monel, qui va parler de Guillaume Langlais comme du Galien de Marseille. Alors là aussi, ça traduit cette évolution de l'astrologie dans le champ des sciences.
Voilà, alors, oui, je suis trop lente en fait, m'en compte, oui, parce qu'on parlait de l'Église, j'ai même pas terminé là-dessus. Voilà, selon les contextes, donc, il va y avoir des bisbilles ou non avec ceux qui se servent de cette méthode d'approche du corps humain, dirons-nous, de prédiction. Nicolas Monel, c'est un personnage originaire de Thérouanne, dans le Pas-de-Calais actuel, qui est médecin et qui est astrologue, qui le dit clairement, et qui fait l'objet d'un procès en 1469, dont il va le faire appel en 1470, et il est par ailleurs l'auteur, alors, le procès, pourquoi? Il est renommé d'être devineur et utilisateur d'art magique. Et entre autres, dans son livre des passions astrologiques, il cite, comme vous venez de le dire, nommément Guillaume Langlais, qu'il appelle donc Galien de Marseille, ce qui est quand même pas peu flatteur. Ouais. Et il va lui-même se targuer, se piquer d'avoir appliqué cette méthode et d'avoir diagnostiqué telle ou telle maladie. C'est le troisième de ces cas de patients, si je me rappelle bien, grâce aux méthodes prônées par Guillaume.
Là, on parle du 15e siècle. Est-ce qu'on a une idée du moment où médecine et astrologie se séparent, ou bien c'est une histoire encore plus complexe et qu'il faudrait évoquer dans une autre émission avec d'autres personnes?
Je pense qu'il va falloir appeler quelqu'un de plus compétent que moi, parce que puisque j'ai encore Guillaume Langlais en tête grâce à vous, eh bien, les traces de sa survie et son succès au 16e siècle sont nombreuses.
Bah, merci beaucoup en tout cas à vous, Laurence Moulinier-Brogi, de nous avoir présenté ce personnage qu'on ne connaissait pas, Guillaume Langlais. Et puis on fera une émission justement pour parler de la séparation entre astrologie et médecine. Et puis pourquoi pas astrologie et astronomie.
Readings in astrology. 1, 2, 3, 4. We'll be right back.
that much to me. The woman I thought was just so, she now tells me we ain't compatible. She says, see, look right here on the paper, you should be loving your neighbor. Loving my neighbor's out of sight, but I'm your man and I'm just trying to do right. But I can see there's some trouble coming right here with this funky woman. The love I thought she had for me, and I see it's gone to some astrology. Well, baby, I can see your face. You better wake up before it's too late.
Readings in Astrology par Curtis Mayfield dans Science Chrono sur France Culture pour tourner cette page d'Histoire des Sciences. À présent, on va enfiler nos brassards parce que l'entretien archéologique du jour va nous faire prendre l'eau.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
On a longtemps cru en Europe et dans le monde occidental que le récit du déluge apparaissait pour la première fois dans la Bible, une Bible que l'on considérait comme une source historique primaire. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que des fragments de tablettes racontant les exploits d'un certain Gilgamesh soient traduites et qu'un déluge d'avant le déluge émerge de ces textes millénaires venus de Mésopotamie. À quoi ressemble ce déluge écrit en langue akkadienne et sumérienne? Quels sont les éléments récurrents de ce mythe fondateur que l'on retrouve dans ces textes cunéiformes? On se demande aujourd'hui comment, partant d'un travail archéologique, linguistique et philologique, on a pu remonter à la source de l'un des mythes les plus importants de l'histoire de l'humanité. Bonjour Cécile Michel.
Bonjour.
Vous êtes assyriologue, directrice de recherche CNRS au laboratoire Archéologie et Sciences de l'Antiquité. Merci beaucoup à vous de venir aujourd'hui nous raconter comment le déluge a émergé ou submergé ces premiers textes écrits par l'humanité en langue akkadienne et sumérienne, je le disais. Une fois n'est pas coutume, on ne va donc pas creuser aujourd'hui dans la terre, mais on va creuser dans les textes et on va croiser des figures mythologiques comme Gilgamesh ou Atrahasis. Alors on va commencer cette émission par un petit mot pour commencer. On a appris la disparition de l'archéologue Jean-Paul Guillaumet. Ce mercredi 4 juin, Jean-Paul Guillaumet a été l'un des principaux artisans des fouilles conduites sur le site de Bibracte. Archéologue passionné, inventeur de dispositifs de fouilles inédits et grand passeur auprès de plusieurs générations d'archéologues venus fouiller sur le Mont Beuvray, il s'est éteint à 78 ans. On adresse nos pensées à sa famille, à ses proches et à toutes les équipes qui ont pu travailler à ses côtés à Bibracte, un site devenu emblématique en France en grande partie grâce à ses efforts. On revient maintenant dans l'entretien archéologique à notre sujet du jour et au mythe du déluge en Mésopotamie. Avant de nous plonger dans ces textes fondateurs qui émergent dès les tout premiers âges de l'écriture, j'aimerais vous faire entendre la voix de l'anthropologue, préhistorien et mythologue Jean-Loïc Lequelec, qui répondait le 29 décembre 2021 à Maïlys Bessery sur France Culture dans l'émission La Grande Table. Il décrivait alors la grande famille des déluges et la fonction de ces mythes.
Qu'est-ce que c'est qu'une histoire du déluge, au fond ? Nous, on pense pluie. Immédiatement. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit, parce que la pluie diluvienne, c'est aussi passé dans le vocabulaire. Or, c'est pas exactement ça, une histoire de déluge. Une histoire de déluge, c'est l'histoire d'une création, une première création, par une divinité, peu importe, un ou plusieurs dieux, c'est pas très important, mais une première création qui ne se comporte pas comme vraiment attendue, ou qui a un comportement un peu pénible, fait trop de bruit, se révolte, se prend elle-même pour des dieux, quand il s'agit des premiers humains, se multiplie beaucoup trop, ce qui fait que ça va être trop lourd et la Terre va s'effondrer. Ça va pas comme prévu. Et donc, ça va tellement pas bien, en fait, que la divinité créatrice décide de commencer.
Donc en réalité, c'est un raz-de-marée, c'est table rase.
C'est pas réparable, voilà. Donc la décision, c'est de, on efface tout, on recommence. Et donc on va éradiquer les êtres de cette première création, parce qu'ils sont vraiment trop imparfaits. Donc pour éradiquer toute une création, il n'y a pas 36 000 solutions. Et effectivement, le déluge, c'est une très bonne solution. Et il y a plusieurs types de déluges, parce que du coup, on peut utiliser un déluge de feu. C'est ce que les mythologues appellent l'ekpyrosis, c'est-à-dire l'embrasement du monde. On met le feu partout et une fois que tout s'est éteint, on va recommencer à zéro.
On peut faire ou bien déborder par l'eau, la mer.
Ou bien par l'eau. Alors soit par la pluie, soit par une espèce de tsunami, soit par un débordement d'eau terrestre. Il y a tout un tas de processus. Mais par l'eau également, on va éliminer tout le monde. Et ensuite, parfois en sauvant quelques les rares qui étaient sauvables, considérés comme à peu près acceptables. Et à partir de là, une nouvelle humanité va être créée. C'est ce qu'on appelle un mythe de double création.
Cécile Michel, le déluge, ça a toujours été le meilleur moyen finalement pour se débarrasser des humains, quelles que soient les mythologies.
Oui, c'est ce qu'on appelle laver la terre de la surface de toute sa vie, donc de tous les êtres vivants par l'eau.
Qu'est-ce que vous retenez de ce propos de Jean-Loïc Lequelec, qui lui s'intéresse beaucoup justement à l'origine des mythes et puis à leur circulation et aux points communs qui unissent tous ces mythes fondateurs?
Oui, ben c'est ça en fait. C'est une création qui n'a pas bien fonctionné et qui dont on ne peut pas réparer grand-chose en fait. Et donc on est obligé d'effacer cette première création pour recommencer à zéro.
Quand on parle de déluge, on parle d'un mythe anthropogonique, donc on parle de la création des humains, là où on va parler d'un mythe cosmogonique quand on parle de création du monde. Je le disais en introduction de cette émission, Cécile Michel, en Europe et dans les pays occidentaux, le déluge de la Bible a longtemps tenu le haut du pavé. Qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle pour qu'on se dise « Ah mince, en fait, il y a peut-être un déluge antédiluvien ».
Alors, le déluge dans la Bible et les livres du Pentateuque, les cinq livres fondateurs de la Bible, ont été inspirés directement par Dieu. Donc, on pensait qu'effectivement, c'était un écrit divin, directement inspiré par Dieu. Et la découverte de la première tablette cunéiforme qui racontait une histoire qui était tellement proche de celle de la Bible a un peu effondré tous les croyants en découvrant que bah, peut-être il y avait effectivement un emprunt et que c'était pas un livre purement divin. Alors ce qui s'est passé, c'est que le jeune George Smith, en 1872, était en train de travailler, de recoller en fait ensemble les tablettes qui avaient été rapportées lors de ses fouilles à Ninive par Henry Austin Layard dans les années précédentes. Henry Austin Layard avait eu beaucoup de chance parce qu'à Ninive, il était tombé sur la bibliothèque royale d'Assurbanipal. Assurbanipal est un roi qui a régné au 7e siècle avant Jésus-Christ et qui se targue d'être savant, de savoir lire et écrire lui-même et qui donne des ordres à tous les hauts officiels de son royaume pour rassembler tous les témoignages écrits de la science de son temps. Et donc, il ramasse une collection magnifique de textes mythologiques, scientifiques, savants, etc., qu'il conserve dans son palais à Ninive. Donc, Layard tombe sur cette magnifique bibliothèque et ramène une 30 000 tablettes cunéiformes. Si on recolle tous les morceaux, ça doit faire à peu près 20 000 textes. C'est absolument incroyable. Les réserves du British Museum en ont partout et il faut essayer de recoller les morceaux, de commencer à lire et comprendre ce qu'il y a dedans. Et donc en faisant du recollement de tablettes, le jeune George Smith tombe sur une tablette où on parle d'un bateau qui arrive en direction d'une montagne, d'une colombe qu'on lâche, et il se dit mais c'est quelque chose qui ressemble si fort au déluge. Donc le 3 décembre 1872, il fait une communication devant la Société des biblistes de Londres, qui était à l'époque dirigée par l'officier Rawlinson, qui avait participé au déchiffrement des cunéiformes. Donc c'était une session importante où il explique que ben, en fait, la Bible s'est inspirée du mythe du déluge qui existait déjà chez les Mésopotamiens.
Alors on parle des sites de Ninive, de Nimrod. Quand étaient-ils peuplés? Quand étaient finalement écrits ces textes en cunéiforme, si on doit bien situer cette période par rapport à l'écriture de la Bible?
Alors cette tablette qu'étudiait George Smith, en fait, c'est une tablette qui appartient à l'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh a été, est un texte qui a été composé à partir de plusieurs épisodes. Et ces épisodes sont connus en version écrite, à partir du début du deuxième millénaire. On ne sait pas, bien sûr, évidemment, ce qu'il en était de la tradition orale. Et cette épopée de Gilgamesh a été canonisée, c'est-à-dire a été mise en forme par un scribe qui s'appelait Sinlekeunini au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Et on pense que cette 11e tablette de l'épopée a été ajoutée à ce moment-là à l'ensemble de l'œuvre, donc au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, pour ce qui est de cette tablette. Après, les scribes, dans le cadre de leur apprentissage, dans le cadre de leurs travaux savants, ont recopié à l'infini. Et donc, dans la bibliothèque d'Assurbanipal, il y avait plusieurs exemplaires de cette 11e tablette de Gilgamesh.
Cette 11e tablette dont on entendra un extrait tout à l'heure dans sa version originale. Et ça, c'est vraiment une chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir entendre de l'acadien. Mais j'aimerais peut-être, avant qu'on parle de la 11e tablette qui contient cet épisode du déluge, que vous nous rappeliez et que vous rappeliez aussi aux personnes qui nous écoutent ce que contient ce mythe globalement de Gilgamesh. Que raconte cette histoire? C'est un peu les 12 travaux d'Hercule façon Mésopotamie, c'est ça?
C'est à peu près ça. Donc, à l'origine, Gilgamesh est un roi de la ville d'Uruk. Il règne au milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et il est un roi tyrannique. Il brutalise sa population. Il est très peu apprécié du peuple. Et puis, les dieux pensent que il a un comportement qui est à la limite de l'admissible. Et on lui envoie pour essayer de canaliser sa force et son énergie, parce que c'est bien sûr quelqu'un de très grand, très, très musclé, etc. Pour canaliser sa force et son énergie, les dieux décident de lui envoyer quelqu'un qui serait à peu près son égal en force, etc., qui est un être demi-sauvage, qui va être amené à la civilisation par une prostituée, donc c'est tout un processus, et un combat commence entre Gilgamesh et cet être qui s'appelle Enkidu. Et ce combat va se finir sans véritable vainqueur et ils vont devenir les meilleurs amis du monde et les frères. Et puis ils vont mener effectivement des exploits remarquables, dignes des 12 travaux d'Hercule, effectivement. Et puis, entre-temps, la déesse Ishtar a essayé, qui est très amoureuse de Gilgamesh, a essayé de le faire tomber dans ses
bras.
Très amoureux et dans son lit. Et Gilgamesh l'a repoussé parce qu'il connaît les actes passés d'Ishtar et la façon dont elle s'est comportée avec le dieu Dumuzi, par exemple. Et donc, il la repousse et, furieuse, elle décide que Enkidu va mourir.
Il a tué son meilleur ami.
Voilà. Et à ce moment-là, Gilgamesh découvre qu'il est mortel. Et il sait qu'il existe un homme sur Terre qui a acquis l'immortalité. Et donc, il va parcourir un très long trajet parce que cet homme habite aux confins des mondes connus. Et donc, il va aller à la rencontre de cet homme pour essayer de comprendre comment il a acquis l'immortalité et comment, à son tour, il va pouvoir devenir immortel.
Eh bien, c'est la parfaite introduction à cette lecture qu'on va écouter de l'extrait de l'épopée de Gilgamesh. Une lecture en version originale acadienne lue par Karl Ecker. Et ensuite, je vous lirai la traduction que vous en avez faite, Cécile Michel.
Cheche uri u sebe umushati ilaksharu abubu mehu isapanmata. Sebu umu inakashadi itarak mehu abubu kapla. Shaim taksu kima kayalti inuchtamtu. Ushare imhulu abuba ikla. Apalsama uma shakinkulu. Ukula tenesheti itura anatiti. Kima uri mitwarat ushalu. Apte napashama setu imtakut elitu apia. Uktamisma Atashap Abaki.
Six jours et sept nuits durant, bourrasque, pluie battante, tempête et déluge nivelèrent le pays. Lorsque le septième jour arriva, ce déluge se calma, l'orage se calma, la mer qui avait combattu comme une parturiente se calma. La tempête fit silence, le déluge s'arrêta. Je regardai alentour. Le silence s'était installé. Et tous les gens étaient redevenus argile. La plaine était plate comme un toit. J'ouvris une fenêtre et la lumière me tomba sur le visage. Je tombai à genoux, immobile, et pleurai. Cécile Michel, on entendait à l'instant donc un extrait de l'épopée de Gilgamesh. Qui dit « je » dans ce passage ?
Oui, parce que donc Gilgamesh arrive et rencontre Utanapishtim, dont le nom signifie « le lointain a trouvé la vie », donc ça signifie bien ce qu'il est devenu, un immortel. Et c'est Utanapishtim va lui raconter son aventure. Donc tout le passage racontant le déluge est effectivement à la première personne. Mais ce passage arrive un petit peu comme un cheveu sous la soupe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi le déluge est arrivé dans l'épopée de Gilgamesh. C'est vraiment les dieux se fâchent et envoient le déluge, mais il n'y a pas de prélude à cette histoire. Et effectivement, il pleut 7 jours, 7 nuits. Alors dans la Bible, c'est 40 40 jours. Et à l'arrivée, quand Gilgamesh pense que tout c'est le temps est devenu plus calme, donc effectivement, il tombe à genoux, il pleure, et il va lâcher successivement une colombe, une hirondelle et un corbeau pour voir s'il y a moyen de se poser quelque part. Et les deux premiers reviennent, le troisième ne revient pas, ce qui signifie qu'il a trouvé un bout de terre. Et donc, Gilgamesh accoste sur une montagne, donc ça a donné encore lieu à beaucoup de mythes ultérieurs. Et la première chose qu'il fait, c'est un grand sacrifice. Il fait un grand feu, il sacrifie des animaux pour remercier les dieux de l'avoir laissé en vie. Et là, le poème est magnifique et on retrouve cette même version dans d'autres textes. Les dieux étaient affamés. Parce que pendant 40 jours et 40 nuits, il n'y a pas eu de sacrifice. Et donc, ils arrivent à tirer comme des mouches autour du feu.
C'est intéressant, cette relation entre les dieux et les humains, où les dieux ont toujours besoin des humains, et inversement, les humains ont besoin des dieux, et parfois en souffrent beaucoup. Ce qui est incroyable dans ce que vous me dites, Cécile Michel, c'est quand même cette parenté évidente, et on va venir bien sûr à d'autres récits de déluge dans ce monde mésopotamien, mais cette parenté évidente entre le déluge de Gilgamesh et le déluge de l'Arche de Noé, avec ses oiseaux, cet envoi d'oiseaux, tout se recoupe finalement.
Alors il y a une grosse différence, parce que dans la Bible, c'est Dieu qui est créateur, qui a créé les hommes et qui envoie le déluge. Alors qu'en Mésopotamie, on a des panthéons très fournis avec plein de dieux. Et donc celui qui envoie le déluge, c'est Enlil. Or, les dieux créateurs, ce sont les déesses mères et le dieu Enki en sumérien ou Ea en acadien, qui est à l'origine de la création de l'homme.
Alors Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh, Cécile Michel, n'est peut-être pas le texte le plus ancien qui parle de déluge. Il y a un autre mythe peut-être qu'on pourrait évoquer dans ce monde mésopotamien, celui d'Atrahasis. Comment a-t-on à nouveau découvert la trace de ce mythe? Est-ce que c'est à nouveau George Smith qui, dans son délire de fouilles et d'études de ses tablettes en Grande-Bretagne, s'est dit « Ah tiens, il y a encore un autre mythe là qui apparaît ».
Alors en fait, on est beaucoup plus tard dans le temps, au milieu du XXe siècle, et les collègues assyriologues travaillaient sur les archives qui ont été découvertes dans la ville de Sippar, et il s'avère qu'il y avait entre 10 et 15, peut-être 20 exemplaires d'un mythe qu'on ne connaissait pas par ailleurs, et qui était plus ancien que cette 11e tablette de l'épopée de Gilgamesh, puisque ces textes remontent à l'époque paléo-babylonienne, c'est-à-dire les premiers siècles du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et on a plusieurs copies de ce texte qui ont été rédigées sous le roi Amitsadouka de Babylone, qui régnait au 17e siècle avant Jésus-Christ. Donc, et en fait, il s'est avéré à la lecture du texte que c'était le texte qui avait inspiré la 11e tablette de l'épopée de Gilgamesh.
Alors, on a évoqué d'ailleurs tout à l'heure, petit aparté, petit détour par la linguistique, mais on a parlé de la langue acadienne. Ces textes, on les a aussi trouvés en langue sumérienne. La langue sumérienne précède la langue acadienne. Est-ce que ça veut dire que, voilà, ils ont été écrits avant, ou bien est-ce que, un peu de la même façon qu'on a le latin, voilà, qui a été écrit pendant longtemps, même si on ne parlait plus de façon courante, le sumérien, c'est un peu le latin de la Mésopotamie, c'est ça?
Alors c'est tout à fait ça, parce que les Sumériens, dont on pense qu'ils sont les inventeurs de l'écriture, vers 3400 avant Jésus-Christ, bien la civilisation sumérienne s'éteint et le sumérien n'est plus parlé à partir de 2000 avant Jésus-Christ. Mais comme ce sont les créateurs de l'écriture cunéiforme, eh bien les petits scribes vont devoir apprendre en priorité à l'école à écrire, à lire et à écrire le sumérien pendant plus de 2000 ans.
On parlait de ce mythe d'Atrahasis qui précède le mythe de Gilgamesh. Que raconte à nouveau ce mythe pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec les contes et légendes de Mésopotamie?
Alors ce mythe est aussi écrit en acadien, puisqu'on vient parler sumérien pour pas mélanger un peu les choses. Et ce mythe est absolument fantastique et très construit. Et là, l'histoire du déluge s'inscrit dans une logique, dans une histoire. Alors ce mythe est magnifique. Parce qu'à l'origine, on a deux classes de dieux. On a les Anunnaki, qui sont les grands dieux, et il y a une classe inférieure de dieux, les Igigi, qui travaillent pour nourrir les Anunnaki. Donc ce sont des dieux corvéables à merci. Et un jour, ces dieux se révoltent. On décide qu'ils en ont assez. Pourquoi est-ce qu'ils ont une vie très différente des grands dieux? Et ils font la première grève dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'ils brûlent leurs outils, et ils décident que ça ne va pas, ils arrêtent de travailler, ils font la grève. Et les grands dieux sont très embêtés, et bon, on s'explique. Et là, une fois de plus, c'est le dieu, donc Enki en sumérien, Ea en acadien, qui décide de créer un substitut au dieu inférieur, et comme ça, les dieux inférieurs n'auront plus le droit, plus besoin de travailler. Donc, avec la déesse mère, ils vont former sept pâtons de clé d'argile d'un côté, sept pâtons d'argile de l'autre, et puis on va quand même sacrifier l'initiateur de la révolte, qui est le dieu Wé. Donc, on va arroser ces pâtons de clé du sang de Wé, et ce sang de Wé va donner une petite forme, on va dire, de vie éternelle au dieu, puisque ça va être l'esprit, les témous des humains. Donc l'esprit des humains est quelque chose qui est éternel, mais le corps, lui, il meurt. Et donc, avec la création de ces hommes et de ces femmes qui vont très très vite se multiplier, eh bien, on a une force de travail pour nourrir les dieux. C'est pour ça qu'il y a les sacrifices et qu'il y a les dons au temple, etc. Le problème, c'est que cette humanité croît très 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 vite. Et Enlil, le grand dieu, commence à être très très ennuyé par le brouhaha qu'il y a sur la terre, à la surface de la terre, à cause des humains, et va envoyer plusieurs fléaux. Alors on retrouve un peu ces fléaux dans les sept plaies d'Égypte, bien sûr. Il y a d'abord une épidémie, on pense que c'est la peste. Après, on va essayer de faire une sécheresse pour les empêcher d'avoir des cultures, etc. Et puis, l'ultime solution, bien sûr, c'est le déluge.
Alors ce déluge, il va à nouveau épargner quelques-uns de ces humains. Un humain en particulier, comment ce Atrahasis survit-il ?
Alors, Atrahasis, c'est le très sage, ou le super sage, comme l'a appelé Jean Bottero, le grand assyriologue. Et à chaque fois, en fait, le héros, le survivant du déluge, c'est quelqu'un de très pieux. C'est quelqu'un de haut placé, parfois un roi, mais c'est surtout quelqu'un de très pieux. Et donc, il est épargné parce que c'est un bon, c'est un juste, c'est un peu l'histoire de la Bible avec Noé. Et donc, eh bien, le dieu est Enki. Alors là, on a le nom sumérien du dieu dans ce texte, bien que ce soit un texte écrit en acadien, qui est le dieu des eaux souterraines et qui est un dieu très sage, qui est à l'origine de la création de l'homme. Il se dit on ne peut pas éradiquer les hommes. Et donc, il choisit Atrahasis pour qu'il survive. Et comme il a promis au dieu de ne pas révéler le secret des dieux et d'annoncer le déluge, il va d'abord apparaître en songe, puis derrière une cloison de roseaux, et expliquer à Atrahasis, bon maintenant, il va y avoir une grande catastrophe, il faut que tu construises un bateau, donc il explique le bateau. Alors, dans l'épopée de Gilgamesh, dans la 11e tablette, on a les dimensions du bateau, on a beaucoup débattu, est-ce que c'est un cube, parce que sa largeur égale sa longueur, ou est-ce que c'est un bateau rond, hein, comme ceux qui naviguaient sur l'Euphrate il y a un siècle, il y a plus d'un siècle. Et puis, Atrahasis s'exécute, construit son bateau en 7 jours, avec l'aide de toute la population, et puis fait remonter dans son bateau sa famille, ses artisans, plein d'animaux. Donc il y a pas mal de gens quand même sur le bateau. Et il est effondré, parce que comme c'est quelqu'un de juste, il est effondré de voir que la population va mourir. Et il dit au dieu, mais qu'est-ce que je vais leur dire ? Et le dieu lui souffle la solution. Il faut leur expliquer que ton dieu, donc moi, Enki, s'est disputé avec Enlil et que donc tu dois fuir parce que sinon ça va pas être possible et que toute cette histoire va retomber sur le peuple. Et à la place, Enlil inondera la population de bonnes choses en abondance, etc. Donc il leur sert exactement l'excuse que lui a inspiré ce dieu. Et puis, pareil. Il va s'enfermer dans son bateau avec tout ce qu'il a fait monter dedans.
Et donc après, voilà, comment se sort-il de ce déluge ? Et puis, quelle réconciliation avec les dieux s'opère ?
Alors, de même, puisque Gilgamesh a copié sur Atrahasis, enfin la 11e tablette de Sin Lekeonini a copié sur l'épopée d'Atrahasis, donc on a le passage où il envoie des oiseaux est cassé. On n'a pas le passage complet, mais donc il va accoster et la première chose qu'il fait, effectivement, c'est un grand sacrifice pour les dieux, pour les remercier. Et pareil, les dieux affamés, attirés comme des mouches, arrive autour de ce sacrifice.
Alors Cécile Michel, vous avez apporté, je crois, avec vous un extrait de ce mythe d'Atrahasis. Est-ce que vous accepteriez de nous en faire une petite lecture ?
Oui. Les dieux sentirent l'odeur, ils étaient rassemblés comme des mouches au-dessus de l'offrande. Après qu'ils eurent mangé l'offrande, Nintu se leva et se plaignit de tous. Où Enlil, où à nous est-il allé, l'auteur de cette décision ? Enlil s'est approché de l'offrande d'encens, celui qui n'a pas réfléchi et qui a causé le déluge. Et rassemblez les gens dans une catastrophe. Votre ordre a apporté une destruction totale. Et leurs faces claires sont devenues sombres. Alors elle s'approcha des grandes mouches qu'Anou avait faites et dit « Leur désespoir est mien, que ce soit mon destin, ces mouches de lapis-lazuli, qu'elles soient la parure de mon cou, que je me souvienne de ces jours et ne jamais les oublier. »
Pourquoi, Cécile Michel, vous avez pris ce passage-là? Qu'est-ce qui vous parle dans cet extrait-là?
Parce qu'en fait, il y a un grand débat à l'issue du déluge, où effectivement, qui a éradiqué à la surface de la Terre la plupart des êtres vivants. Il y a un grand débat entre les dieux. Enfin, surtout, la plupart des dieux regrettent amèrement cet acte décidé finalement et organisé par Enlil. Et il y a un très long passage où les dieux discutent et surtout se lamentent de la disparition de l'espèce humaine qu'ils avaient créée à l'origine.
On leur manquait un petit peu.
Et donc la déesse mère va se parer de ce collier de mouches en lapis-lazuli. Et on a retrouvé dans les perles, dans plusieurs sites, des petites mouches en lapis-lazuli qui devaient célébrer ce mythe.
C'est ça que je trouve très beau, c'est le lien justement entre la recherche archéologique, le fait que cette recherche archéologique fait qu'on découvre voilà, les tablettes cunéiformes, que par cette découverte archéologique, on comprenne qu'il y a des mythes qui préexistent, des mythes du déluge qui préexistent à celui de la Bible. Petit détour justement par ce moment où on comprend qu'il y a un déluge avant le déluge biblique, ça crée l'effet d'une détonation, j'imagine. Qu'est-ce que ça
Alors, ça fait une détonation complète, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, on pensait que le livre biblique était inspiré divin, Dieu, et on se découvre qu'en fait, il a des précurseurs. Et en 1904, il y a un Allemand qui s'appelle Franz Delitzsch qui publie un ouvrage qui s'appelle Babel und Bibel, et où il explique qu'en fait, le déluge n'est pas le seul texte inspiré dans la Bible des Mésopotamiens, et qu'en fait, l'essentiel de la Bible serait... Il va carrément dans l'excès inverse, l'essentiel de la Bible viendrait en fait de la mythologie mésopotamienne.
Une mythologie qui irrigue tout ce Proche-Orient. Quand je parle d'irriguer, je pense aussi à ces deux grands fleuves, le Tigre, l'Euphrate. Alors, je me pose des questions parce qu'on essaie de comprendre l'origine des mythes. Alors, ça, on n'aura pas la réponse, bien sûr. Je vous la pose quand même, c'est une question très ouverte. Mais est-ce qu'on a des traces archéologiques de catastrophes météorologiques, climatiques qui pourraient expliquer la naissance de ce mythe du déluge, le Tigre et l'Euphrate étant des fleuves particulièrement capricieux, fragiles et sujets à des crues en colère, on va dire.
Absolument, c'est tout à fait ça. Et alors, évidemment, après la découverte de cette tablette de Gilgamesh, dans la première moitié du XXe siècle, les archéologues ont cherché sur les sites qu'ils fouillaient des traces de ce déluge. Alors, on a cherché ces traces à Ur, à Kish, à Shurupak, où on a effectivement... Bon, alors, ils ont fait d'énormes sondages. Ça parfois a été un peu dévastateur. Mais où, effectivement, ils ont trouvé des niveaux, parfois des niveaux très importants, de plusieurs mètres, complètement vierges de vestiges archéologiques, juste de limon et de accumulés, etc. Ils se sont dit, mais ça y est, je tiens mon déluge. Le problème, c'est que c'est les datations de ces couches stériles de matériel ne coïncidaient pas entre les différents sites. C'est-à-dire qu'on en avait pour le début du troisième millénaire, puis on avait pour le milieu, puis on avait pour la fin, et donc on ne pouvait pas parler d'un déluge universel. Mais il est évident qu'en fait, la création de ce mythe vient de ces crues énormes de ces deux fleuves qui traversent toute la plaine mésopotamienne et qui, on le sait très régulièrement, débordaient de leurs lits et ont fait des ravages et ont pu effacer quelques villes.
Et l'archéologie des mythes, on entendait la voix de Jean-Loïc Lequelec, donc il y a des personnes qui se dédient entièrement à ça, à la compréhension de l'origine des mythes, c'est quelque chose de pas simple, puisque concomitamment, à plusieurs endroits de la planète, des cultures humaines très diversifiées vont avoir ces mêmes mythes, ces mêmes besoins de créer un déluge, alors que ce soit par le feu, comme on l'entendait tout à l'heure, ou bien par l'eau, ça complique le travail quand même.
Oui, je crois que dans un pays nordique, il y a un déluge par la neige, par tempête de neige aussi. Chez les Grecs, j'ai un trou, le fils de Prométhée, dont je viens d'oublier le nom, et son épouse qui survivent au déluge, ils sont avertis par Zeus, et ils sèment des petits cailloux qui vont se retransformer en humains. Donc en fait, ils recréent l'humanité aussi sec.
En tout cas, merci beaucoup à vous, Cécile Michel, d'être venue nous raconter ces histoires de déluge dans le monde mésopotamien. Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansini, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Olivier Arnay, aujourd'hui à la technique. Et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.